Radio Primitive et Galaxy Pop présentent Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Made in USA.
You know, the people that say they're not feminists, I want them to take a step back and understand. In the 70s, you couldn't even have a credit card unless it was in your husband's name or your father. You couldn't go into the schools to become a broadcaster without the feminist movement because you're still second-class citizen, which is what we're rolling back to now, which is why we need to stand up as 50% of the population to say, you don't want big government? Me neither. I don't think the government should be governing my body.
En préparant cet épisode, je n'ai pu m'empêcher de faire un constat. Le patriarcat a fait beaucoup de dégâts et il aurait été étonnant que le microcosme de la musique y échappe. Ce système a protégé et donné le change à des hommes en leur pardonnant leurs frasques, leurs excès, leur manque de respect et leur mauvais goût. Je veux dire par là qu'on a rarement fait cas du mulet de John Bon Jovi ou encore de la qualité de sa musique, là où on a plus souvent méprisé les femmes, les considérant davantage comme des potiches, pas vraiment conscientes de ce qu'elles faisaient dans cette industrie et surtout bonnes à faire ce qu'on leur demandait, les soupçonnant au passage d'avoir couché pour y arriver ou de faire de la récup pour se faire remarquer et faire vendre, là où on dira d'un homme qu'il a inventé un truc et qu'il est tout à fait légitime, même avec des résilles et un maquillage ridicule. Oui, beaucoup de femmes dans le milieu de la musique y sont arrivées en en chiant des ronds de chapeau, et pas seulement parce qu'on leur a mis des bâtons dans les roues, et croyez-moi, ça n'est pas qu'une image, mais souvent parce qu'elles ont subi le patriarcat dès leur enfance, au sein même de leur famille, dans leurs écoles, bref, dans la société en général. Et n'oublions pas qu'il y a un couvert de plus aux States, la religion. J'entends encore, comme si c'était hier, les pseudo-rockers dans les conventions de disques se faire un max de profit sur trois artistes féminines dont ils vendaient du collectible en se vantant de les détester. Madonna parce qu'elle n'était bonne qu'à c'était des p***s, Vilaine Fermière, la chanteuse sans voix, et Cyndi Lauper, la fausse punk. J'en concluais donc que pop et rock n'étaient pas vraiment des amis, qu'utiliser le décorum punk dans la pop était suspicieux et la démarche mercantile. Mais j'ai surtout remarqué à quel point la virulence de ce discours visait les femmes. J'ai par exemple rarement entendu mon père remettre en question son précieux Mick Jagger, même après ça. Et pourtant, Cyndi Lauper n'est pas un produit des années 80, tel qu'a voulu vous le vendre MTV à l'époque des Goonies et The Girls Just Want to Have Fun, et cette petite ritournelle guillerette, justement, cachait une réalité bien plus dramatique sous son vernis glossy. Oui, les femmes veulent être libres, les femmes veulent s'émanciper, les femmes veulent sortir et s'amuser. Oui, les femmes veulent fuir cette société patriarcale qui les condamne à simuler un bonheur fin, transmis de génération en génération, qui consiste à reproduire les mêmes schémas mortifères encore et encore. En gros, les femmes en ont plein le fiac que les hommes décident et pensent pour elles. L'histoire de Cyndi Lauper le prouve, elle n'est pas arrivée en 1983 avec ce look et ce tempérament pour satisfaire une quelconque demande d'un quelconque manager sexiste. Je ne nie pas que toute culture indé ou sous-culture finit par être récupérée tôt ou tard par les médias mainstream afin de se faire un max de thunes en la vidant de sa substance, mais l'histoire de Cyndi Lauper est inhérente à tout concept de récupération, quel qu'il soit. Si certaines mimaient les Barbie punkettes sur des synthés 80s, l'interprète de True Colors n'a elle pas menti sur qui elle est et d'où elle vient.
Elle vient de là, elle vient du blues.
Ouais, le blues, tu m'étonnes. Cynthia Anne Stephanie Lauper est née à Brooklyn en 1953 d'un père d'origine suisse-allemande peu présent et d'une mère d'origine italienne très occupée, ce qui conduira le couple au divorce. La fratrie composée de Cynthia, 5 ans, son frère Butch et sa sœur Hélène suivent leur maman dans le Queens où elle élèvera ses enfants seuls jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui deviendra leur beau-père, dont on reparlera. C'est à peu près à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à expérimenter divers galères, la première, son renvoi d'une école catholique après 6 mois de scolarisation, pour la raison, la voici, la voilà, elle est une enfant du divorce. Elle intègre par la suite un internat catholique, tant qu'à faire, où elle subira divers châtiments corporels, tant qu'à faire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen, pour des motifs du genre avoir été prise en flagrant délit de grattage de dos d'une copine. Genre, tu peux te fouetter avec des orties, mais aider son prochain à atteindre une démangeaison, non.
Intéressant.
Ou encore pour avoir parlé à des garçons.
Patriarca, patriarca, patrie.
Elle s'en sortira en provoquant les nonnes à propos des menstruations, ça a dû être genre la goutte de sang qui a fait déborder le calice, et c'est donc à cette époque qu'elle comprend que les trois mamelles du monde, la famille, la religion et l'État, sont également les plus grands oppresseurs des femmes. Y'a rien qui vous choque dans cette phrase. Elle trouve alors refuge dans cet art qui nous touche toutes et tous, ce langage universel qui parle à nos émotions, ce moyen d'expression libre et sans concession, du moins à l'époque, la musique. D'abord en dérobant les disques de sa maman, plutôt jazz, puis en faisant la découverte majeure, celle qui change tout, sérieux, on n'arrête pas de les name dropper dans chaque épisode, les Beatles. C'est à ce moment-là qu'elle commence à chanter et qu'elle est forcée d'admettre sa déception, elle a pas la voix de Lennon. Ça ne l'arrête pas pour autant. Sa grande sœur lui lègue sa guitare acoustique. À l'âge de 12 ans, Cynthia commence à écrire et composer ses premières chansons avec un ami et se produit pour le fun dans les parcs et soirées locales. Mais si la musique la rend heureuse, c'est surtout un échappatoire. Côté scolaire, elle est régulièrement renvoyée des établissements qu'elle fréquente et côté familial, elle subit les violences d'un beau-père chelou, restons évasifs. C'est durant cette période délicate qu'est l'adolescence qu'elle devient Cindy. Une fois de plus, le recours au pseudo est un moyen comme un autre de naître une seconde fois. Personnage aux coupes de cheveux improbables et au look bohème, et pour cause, elle passe la majeure partie de son temps dans la rue pour fuir son beau-père, au point même de dormir dans une tente. Elle se fait alors une promesse, ne pas reproduire le schéma classique des femmes de sa génération, en particulier sa mère. C'était vraiment le comble, on aurait dit qu'elle se tuait à la tâche. Elle a toujours essayé d'être heureuse, et il n'était pas conventionnel à l'époque que les femmes soient vraiment heureuses. Je pense que la raison pour laquelle je suis comme je suis vient de l'observation de ma mère, de ma grand-mère et des femmes de ma famille et du voisinage. C'est drôle, dans un quartier vous voyez les femmes adolescentes, puis vous les voyez adultes, avec des enfants, tout cela dans l'intervalle de vos 5 à 10 ans. Et vous les voyez prendre le même air que celui que vous avez vu sur le visage de votre mère. C'est ça la vie des femmes, vous savez. Elle démarre donc une vie d'errance dès l'âge de 14 ans, fuyant le domicile le plus souvent possible. Elle se passionne pour la musique, la nature, le dessin et enfin les animaux, ses plus fidèles compagnons étant son chat et son chien Sparkle. Une idée commence alors à germer, fuir au Canada pour y étudier les arbres. C'est avec cette idée en tête qu'elle quitte définitivement le foyer parental à 17 ans.
Tabarnak.
Après s'être perdue 15 jours dans les bois au nord de Toronto, 15 jours durant lesquels elle passera le plus clair de son temps à dessiner des arbres au fusain, elle s'établit finalement dans le Vermont pour y entamer un véritable parcours de combattante.
Au départ, ils sont 16, dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Go !
Elle va d'abord vivre de briques et de broc, en campant avec un ami aux abords du lac Champlain, avant de rejoindre une auberge de jeunesse fréquentée par d'autres jeunes dans sa situation. La jeune fille ne se sentant pas d'entamer un métier la sédentarisant, elle commence comme promeneuse de chevaux avant de reprendre des études d'art au Johnson State College. Elle cumule durant cette période plusieurs emplois afin de remplir le frigo, tels que serveuse, modèle dans des cours de dessin, préposée à l'échauffement de coureurs sur circuit, je savais même pas que ça existait, colporteuse de leçons de karaté, je sais pas ce que c'est. Elle chante également des reprises de Johnny Mitchell à Greenwich Village, car après tout, elle en est certaine à ce moment-là, c'est ce qu'elle sait faire de mieux et elle n'a pas besoin de prendre des cours pour ça. Mais elle verra que son entêtement ne sera pas sans conséquences. Ce cirque durera presque 4 années durant lesquelles elle ira de galère en galère pour à peine s'en sortir. Je vous passe l'histoire de l'écureuil cuisiné par son petit ami.
Vu la tête du chef, à mon avis, c'était pas bon.
Elle rentre dans le Queens en 1974 et passe une audition à Brooklyn pour intégrer un premier groupe, Doc West. Elle est recrutée comme backing singer pour chanter sur des reprises de Chaka Khan, Patti LaBelle, Kiki D Band, bref, des trucs pour s'en jaillir. Le premier concert qu'elle donne avec le groupe la met direct dans le bain, puisqu'elle chante ce soir-là à Long Island devant 100 000 personnes. Elle découvre alors l'étendue de son organe, 4 octaves c'est pas rien, mais ne sachant pas maîtriser la bête, elle commencera à prendre de mauvais réflexes en chantant. Elle doit aussi danser sur scène, ce qui ne l'enchante guère plus que ça. Ajoutons dans l'équation qu'un des musiciens aura avec elle durant cette période un comportement chelou, dirons-nous. Elle comprend rapidement qu'elle n'est pas à sa place. Après un concert hommage à Janis Joplin, qu'elle qualifie de particulièrement grossier, où les gens la complimenteront sur sa capacité à l'imiter, elle décide de dire adieu. Elle ne veut pas chanter comme, elle veut trouver sa voix.
Lao Tzu a dit « Il faut trouver la voix ».
À vrai dire, je suis là pour ça.
Elle va débaucher deux musiciens, Ed Wenzel et un dénommé Chaz, à qui elle propose de monter un groupe plus rock, où elle prendrait la place de lead. En 1975, son vœu s'exauce au sein de The Flyer. Le groupe joue principalement des reprises de Pat Benatar, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, les Rolling Stones, Rod Stewart. Parallèlement à Flyer, Cyndi Lauper apparaît sur un premier 45 tours, une reprise d'un titre de Fleetwood Mac sorti la même année, You Make Me Loving Fun, l'histoire dans l'histoire. En 1977, Lauper est à New York avec son groupe Flyer. Elle fait la rencontre d'un mec qui a un plan pour enregistrer des reprises à bas coût. Vous savez, ces fameux disques compilant des titres du hit parade interprétés par des inconnus. J'ai jamais compris le concept. On lui propose d'interpréter You Make Me Loving Fun en lui demandant d'essayer d'imiter au mieux Christine McVie, le tout pour $15. Le morceau apparaît en face A d'un single sorti à très peu d'exemplaires, vendu à très peu de gens, au point qu'il est même aujourd'hui, impossible d'entendre cette reprise avec l'instrumentation de l'époque. Mais, après le carton de Girl Just Want to Have Fun en 83, des petits malins ont profité de l'opportunité pour ressortir le master du placard, le remixer à la sauce 80s et sortir un 45 tours en le faisant passer pour du merchandising officiel. Inutile de préciser que tout ça s'est fait sans l'autorisation de la principale concernée et qu'elle n'a rien touché des ventes de singles, chelou, dirons-nous. c'est pas top, hein. En témoigne cette anecdotique mésaventure, l'histoire se répète, Cindy peine à trouver sa voix, changeant de registre vocal au gré des reprises avec son groupe Flyer au point de s'abîmer. Courant 77, elle n'est plus capable de continuer ainsi, le couperet tombe, elle ne rechantera plus jamais suite à un affaissement des cordes vocales. Mais ça, c'est les médecins qui le disent. Elle quitte les Flyers qui continueront sans elle sous le pseudo The Dibbles. Désormais aphone et au bord du gouffre, un ami, tous les hommes ne sont pas des chiens, lui présente Cassie Agresta, une coach vocale qui va non seulement entamer une rééducation, mais aussi lui apprendre à se servir de sa voix, lui expliquant les choses à ne plus faire si elle souhaite un jour faire carrière. Il lui faudra une année pour récupérer ses capacités et enfin rechanter dans des clubs new-yorkais. Début 78, Ted Rosenblatt, alors manager de l'Opéra, lui présente un saxophoniste et claviériste du nom de John Terry. De leur entente mutuelle, naît d'abord Loose Lips, puis Blue Angel, groupe de pop aux accents rockabilly, alors très en vogue à la fin des 70 à New York. Il recrute des musiciens, Johnny Morelli à la guitare, Arthur Nielsen à la basse et Librovitz à la batterie. Enfin au complet, ils font la tournée des clubs et enregistrent leur première démo à l'Opal Studio, sous la houlette de Frank Filippetti. Massarchi, alors manager du Allman Brothers Band et des Wellers, se retrouve avec une copie entre les mains. Et ce n'est pas tant la musique que la voix de la chanteuse qui lui tape dans l'oreille, au point de racheter le contrat de management à Ted Rosenblatt. Il fait jouer tous ses contacts qui vont lui répondre en cœur de virer le groupe pour ne garder que la chanteuse qui ne cédera pas sous la pression. C'est finalement Polygram qui va accepter de produire le premier LP du groupe, mais à la condition que les compos soient réarrangés à la sauce disco. Ils mettent donc un célèbre producteur, si ce n'est LE producteur de disco de l'époque, dans les pattes de Cindy, Giorgio Moroder. Et leur rencontre va à peu près se passer comme ça.
So George, what kind of music do you listen to?
Well, what do you mean?
Well, I mean, are you into Buddy Holly? You like Elvis? What do you think of Eddie Cochran?
Who are those people?
George, these are the roots of rock and roll. You wanna produce me? You've gotta understand this stuff. Who are your influences?
I'm an original. I only listen to Giorgio Moroder.
Fin de la discussion. Une fois de plus, la jeune chanteuse reste fidèle à elle-même et ne se laisse pas démonter. C'est finalement Roy Ali, producteur de Simon & Garfunkel, qui produira l'album enregistré à New York au Mediason Studio fin 79 pour une sortie prévue l'année suivante. Trois singles illustrés par des vidéoclips sortiront courant 80, mais malgré une bonne rotation sur la FM, Blue Angel ne trouve pas son public et les critiques ne sont pas d'un grand soutien, considérant qu'en dehors de la voix de la chanteuse, il n'y a pas grand-chose à sauver. Parallèlement, le groupe vire leur manager qui tente une action en justice et leur réclame pas moins de 80 000 $, ce qui entraînera Blue Angel dans sa chute. Dans un premier temps, la sortie du deuxième album du groupe est annulée par Polydor. Dans un second temps, long celui-là, Cyndi Lauper et d'autres membres du groupe se déclarent en faillite personnelle, ce qui leur est accordé début 83. Entre temps, le groupe a splitté et la jeune chanteuse, sans le sou, retourne chanter là où on veut bien d'elle.
Mais ça continue encore et encore.
Mais une rencontre va la sauver et cette fois-ci pour de bon.
C'est que le début, d'accord, d'accord.
David Wolf, producteur dans une filiale de CBS et ami de Cindy, ils seront même en couple durant quelques années, donc amis proches plus plus, la présente à ses contacts au sein de CBS. Suite à cette rencontre, tout s'enchaîne très rapidement, de l'enregistrement à la sortie du premier LP She's So Unusual, qui mettra tout le monde d'accord. Cindy Lauper est une punkette de pacotille, en vrai, c'est juste une meuf de plus qui cherche à faire du flouze. Je rigole. En vrai, ce premier album solo marquera les esprits et le monde tant il est novateur. Alors désormais, j'espère qu'avant de juger une femme artiste ou boulangère, hein, vous vous y reprendrez à deux fois et essayerez de comprendre sa démarche avant de la juger. Et si ça marche pas, imaginez-la avec un pénis, on sait jamais. On se quitte en musique, comme d'habitude, mais l'album de Blue Angel étant désormais disponible sur les plateformes légales, je me suis dit que je pouvais trouver mieux pour terminer cet épisode et quoi de mieux pour démontrer le talent d'un artiste que le live. Ce que vous allez entendre provient d'un concert diffusé sur W New Radio et je remercie la personne qui a eu, à l'époque, l'intelligence ou le réflexe de mettre une cassette dans l'appareil pour enregistrer ce petit morceau d'histoire. Je remercie également le Cyndi Lauper Museum, leur site web est à visiter, c'est une vraie mine d'informations. Je mettrai les liens du site et du live complet dans la description de l'épisode.
Oh, 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 oh
Vous venez d'écouter l'épisode 6 de la saison 3 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour mettre
des paillettes dans ma vie.
Prenez soin de vous et à la prochaine.